Vous êtes sur Radio B, je suis Martine et vous écoutez Contes et récits du monde entier. Contes et récits, c'est votre émission autour des contes, des mythes ou des épopées de toutes les cultures. Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'ancienne capitale de la Turquie, la fastueuse ville de Constantinople, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul. Cette histoire n'est pas vraiment située dans le temps, peut-être autour des 17e ou 18e siècles. Le chef du royaume, c'est le sultan. Il vit dans son magnifique palais de Topkapı à Constantinople. Il a autour de lui toute une cour, des conseillers, des vizirs, des serviteurs et des femmes. Il dirige un empire très étendu. Il a des ambassades dans le monde entier. Et il est au courant de tout ce qui se passe. Le palais du sultan est situé sur une colline entourée de remparts, agrémentée de jardins merveilleux et n'est pas accessible à la population. En bas, la ville laborieuse, les quartiers pauvres ou riches, le port sur le Bosphore, les bateaux à voile et le souk. Le souk, c'est une sorte de marché couvert aux rues étroites et colorées, lieu de rencontre de toutes les classes de la population et le lieu des échanges commerciaux. Voici cette histoire qui s'appelle « Le diamant du sultan ». Il était une fois un beau et jeune sultan. Sa femme est enceinte pour la première fois. Et pour la première fois, le sultan va devenir père. Il est vraiment très fier et il partage la nouvelle avec tout son entourage, comme si c'était lui qui portait le bébé. Le ventre de son épouse grossit. Grossie, elle va bientôt accoucher. Comme un enfant, le sultan saute de joie dans tout le palais, ce qui fatigue sa femme, ses vizirs et ses domestiques. Le plus vieux des vizirs, que le sultan respecte comme son père, le prend par le bras, le fait sortir du palais et lui conseille fermement. Au lieu de sautiller partout comme un jeune chiot, honore ta femme, va lui acheter un cadeau magnifique pour la naissance du bébé. Puis le vizir referme la porte du palais et dit au sultan « Allez, va jouer dehors, fiche-nous la paix. » Le sultan descend dans la ville avec quelques-uns de ses gardes. Il chemine dans les rues, puis il entre dans le souk. Il marche lentement dans les allées étroites et sombres. Il regarde les échoppes de tapis d'Orient aux dessins raffinés, les kilims aux couleurs vives, les échoppes des ferblantiers, les sons décalés des maillotches qui martèlent le cuivre ou l'aluminium semble un concert de percussions métalliques. Il est maintenant devant les échoppes de chaussures et il aime l'odeur du cuir souple et neuf. Il passe devant les boutiques de meubles, de poterie, puis d'épices, aux senteurs enivrantes de cannelle, de cumin ou de jasmin. Il y a aussi les échoppes de thé à la menthe. Mais sa femme a déjà tout ça. Les lampes, les robes, les poteries. Et puis, de toute façon, elle n'aime pas le thé à la menthe. Non, il veut lui offrir quelque chose d'aussi précieux que l'enfant qui va naître. Il arrive dans le souk des bijoutiers. Contrairement aux autres allées, ici, tout brille. La lumière se décuple dans les miroirs savamment agencés. Les colliers en or, les bracelets d'argent, les boucles d'oreilles en rubis. Mais sa femme a déjà tout ça. Il s'arrête enfin devant l'échoppe du meilleur joaillier. Sa réputation a traversé le royaume et passé les frontières. Cet homme vend les pierres précieuses, les plus belles que l'on puisse voir. Le sultan approche. Je veux une pierre aussi pure, aussi précieuse, aussi flamboyante que l'enfant que porte ma femme. Le joaillier est malin. Il sait que les grands de ce monde ne sont jamais satisfaits de ce qu'on leur propose, que leurs souhaits sont démesurés face aux réalités de la vie. Il présente au sultan des pierres de belle facture, mais qui ne possède pas ce talent particulier qui signe l'œuvre d'art. « Il manque la magnificence, » dit le sultan. « Je sais, » pense le joaillier. Et il lui montre alors des rubis d'un rouge intense. « C'est trop sanglant pour une naissance. » « Je sais, » pense le joaillier, et il lui montre des saphirs bleu nuit. « Mais non, c'est trop sombre, » dit le sultan. « Je sais, » pense le joaillier, et il lui montre des améthystes au violet léger, des agates, de l'ambre. « Oh, mais c'est trop triste, trop quelconque. » Le sultan s'impatiente, s'énerve. Alors, le joaillier exhibe enfin son plus beau joyau, un diamant énorme, d'une pureté inouïe, à la coupe délicate, un diamant parfait. Il l'incline devant la lumière de sa lampe à huile, et mille feux multicolores jaillissent de la pierre. Un véritable ravissement. Ébloui, le sultan s'enthousiasme. « Mais c'est celle-là qu'il me faut. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas montrée plus tôt ?»« Parce que la perfection ne se comprend qu'en comparaison de la médiocrité, sultan. »« Oh, cesse de philosopher, bijoutier !» « Je veux que tu perces ce diamant en son milieu et que tu y fasses passer la chaîne d'or la plus fine que tu possèdes. »« Oh non, sultan, permettez-moi. On ne perce pas une pierre de cette qualité. On la sertit. »« Sauf si c'est le désir de ton sultan. »« Si tu abîmes cette pierre, » si elle s'effrite, je te fais couper la tête, ça, je te le promets. » Le joaillier tremble, mais il réplique quand même, « Sultan, vous me paierez quand ? Excusez-moi, mais si demain je dois avoir la tête coupée, qu'au moins ma famille ne se retrouve pas dans le besoin. Quelle insolence, joaillier! Mais tu as raison. Le sultan paye et s'en va. Percer un diamant de cette taille, quelle folie! Le joaillier, tremblant, aiguise ses outils. À cette époque, tout se fait à la main. À l'aide d'une minuscule chignole, il commence à creuser le diamant avec application. La sueur coule sur son front tant il est concentré. Tout à coup, la chignole se bloque, peine, tremble et paf, le diamant se brise en deux. Deux morceaux parfaitement identiques, mais deux morceaux tout de même. Le joaillier est désespéré, anéanti. Il rentre chez lui et explique tout à sa femme. « Que t'arrive-t-il » dit-elle calmement, tout en faisant frire des beignets. « Le sultan est venu au magasin. » « Oui, je sais. Tout le souk ne parle que de ça. Il t'a même acheté un diamant gros comme le poing. Alors, de quoi te plains-tu ?» Et le joaillier explique le trou dans le diamant, la pierre qui casse et la tête coupée. Sa femme continue tranquillement à faire cuire ses beignets. « Je vais mourir demain, et toi, tu continues à cuire tes beignets. Calme-toi, fais confiance au destin. Qui te dit que les choses ne vont pas s'arranger d'ici demain ?» Ce soir-là, la famille se régale avec les beignets. L'homme pense que ce sont les derniers qu'il déguste et il leur trouve un goût divin. Il regarde ses enfants si beaux et il regrette de les avoir grondés trop souvent, de ne pas les avoir assez gâtés. Il insiste pour les border lui-même dans leur lit et les embrasse tendrement. On dit même qu'il leur a raconté une histoire pour qu'ils s'endorment paisiblement. Mais c'est peut-être une légende. En se couchant, il réalise que c'est peut-être la dernière nuit qu'il passe avec sa femme. Jamais il ne s'était senti aussi amoureux. Comment n'avait-il pas remarqué plus tôt son parfum ? La douceur de sa peau, la tendresse de ses caresses. Pourquoi, se dit-il, est-ce le dernier jour qu'on apprécie vraiment tout ce que la vie nous donne de merveilleux? Le lendemain matin, sa femme lui donne un baiser ordinaire. Il est vexé qu'elle ne s'arrache pas les cheveux de désespoir. « Fais confiance, lui dit-elle. Les choses de la vie s'arrangent souvent. Il sera bien temps, le moment venu, de se désoler si les événements tournent mal. » Alors, il se rend au souk, ouvre sa boutique et s'assoit, effondré. Il entend brusquement des cris dans la travée. « Poussez-vous, poussez-vous ! Les serviteurs du sultan arrivent !» Il tremble de peur quand un messager du palais, essoufflé, fait irruption. Joaillier, j'espère que tu n'as pas percé le diamant. Le sultan a changé d'avis. Il veut que tu le coupes en deux morceaux parfaitement identiques. La sultane vient d'accoucher de jumeaux. Le joaillier n'en revient pas. Pour fêter sa chance, il invite tous ses amis du souk à boire à sa bonne fortune. Tout le monde l'envie. Il joue le modeste, mais se garde bien de raconter l'histoire du trou et des jumeaux. Il conclut simplement « C'est une bonne affaire, je ne dis pas le contraire. Mais vous savez, c'est un client comme un autre. Il ne m'impressionne pas du tout. » Aïe, aïe, aïe. Hélas. Dès le premier soir, le joaillier trouve que ses enfants sont trop bruyants et sa femme tellement bavarde et que les beignets sont vraiment trop gras. J'ai trouvé cette histoire dans un livre intitulé « Les contes de l'Olivier » aux éditions de la Rue du Monde. Et le texte est de Catherine Gendrin. Les instruments de musique des rives de la Méditerranée jusqu'à l'Iran et jusqu'à l'Inde sont très anciens. Ce sont des sortes de luths à trois ou plusieurs cordes, comme le sas ou le oud. Ce sont aussi des flûtes comme le ney, une longue flûte à bec, comme la flûte iranienne appelée bansuri, ou comme le doudouk qui est une petite flûte plus courte au son grave et d'origine arménienne. Il y a aussi dans les instruments des percussions et des tablas venus de l'Inde. Alors vous avez entendu successivement, dès la présentation du conte, un artiste kurde, Roshan Filicek, dans un morceau intitulé « Nomade » au sas. Puis Mounir Bachir, dans deux extraits d'un album appelé « Dialogue entre le oud et les percussions ». J'ai choisi aussi un autre musicien, Moulis Berberoğlu, dans un solo au sas, extrait d'un concert en février 2020. Et enfin, deux grands artistes indiens, Zakir Hussain au tabla et Rakesh Chaurasia à la flûte bansuri. Sur YouTube, vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, visionner un film d'Arte intitulé « Sur la route du sas » qui montre très bien l'origine et la diffusion de cet instrument ancien. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Radio B. À bientôt !